Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Concocté par Binge Audio. Quand elle était punk dans les années 80 et qu'elle arrivait dans une ville, le premier endroit dans lequel se rendait Virginie Despentes, c'était le disquaire. On pouvait y trouver les nouveautés, lire les derniers fanzines, être au courant des concerts, rencontrer peut-être des semblables. Ce lieu, ce mode de vie, elle en a fait la matière première de Vernon Subutex, grand livre sur le rock, sur sa mythologie, sur la perte des idéaux aussi. Vernon, c'est ce mec qui perd son magasin de disques et dont le monde s'écroule. Dans ce deuxième épisode, on va donc parler musique. Celle-ci occupe une place centrale, tant dans la vie de Virginie Despentes que dans celle de Luz, qui a beaucoup dessiné le rock, son énergie, ses concerts, dans des albums tels que Live, ou J'aime pas la chanson française. Et pour en parler, on va partir de ce lieu déchu, disparu, fantasmé presque. On commence cet épisode dans les bacs, chez le disquaire. On écoute Virginie Despentes expliquer comment elle a imaginé celui de Vernon Subutex et le rôle crucial que jouait ce lieu dans la culture alternative des années 80 et 90.
C'est vrai que le disquaire de Vernon Subutex, Revolver, en vérité, c'est un disquaire de province qui n'a pas existé à Paris. Les disquaires de Paris sont tous mythiques parce qu'on allait tous chez eux, le New Rose, évidemment, le silence de la rue. Et c'était des endroits parallèles. Mais c'était pas des endroits du tout comme Revolver. Il y avait aussi ce disquaire d'occasion, justement, vers les Halles.
Monster Melody. Qui est hyper antipathique.
Qui est le plus proche de Vernon dans ce que ça pourrait être.
Ouais. Mais c'est vrai dans le bordel, moi je me suis inspiré de Monster Melody pour le bordel. Totalement. Moi j'ai fait du repérage là-bas et je suis passé pour un con parce que il me demandait mais qu'est-ce que je foutais là. Et j'ai demandé s'il avait des CD. Il m'a regardé comme si je lui avais chié dans la bouche. Et c'est vrai que c'était un petit peu stupide. Mais le disquaire dans ton livre, c'est déjà quelqu'un de très particulier parce que c'est un type hyper sympa. Tous les disquaires sont pas sympas comme Vernon.
C'est un peu comme la lesbienne, quoi. Fallait pas qu'il soit trop sympa.
Ah ouais, ouais. Moi, je connais plus les disquaires que les lesbiennes, mais raconte.
Ah non, mais c'est vrai, je me souviens. Parce que moi, le disquaire à Nancy était pas. C'était des bons disquaires, mais ils étaient pas sympas. Notamment, c'était une fille, quand même. Mais même, du moment où t'étais jeune, il était pas là pour être sympa. Et c'était même, je pense, ça aurait été de mauvais goût qu'il soit trop sympa. Enfin, on l'aurait moins pris au sérieux s'il avait été sympa. À Nancy, le souvenir que moi j'ai du disquaire, c'est que c'est surtout l'endroit de toute façon où tu vas parce que. Toutes les nouveautés arrivent là. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'autres endroits.
Il n'y a pas Wikipédia, il n'y a pas d'informations sur les groupes.
Et
les
la musique qu'on écoute, y a pas, c'est pas dans Rock'n'Folk, c'est pas dans Best, ça se passe autrement. Donc c'est chez le disquaire que ça arrive. Bah, c'était les fanzines aussi.
Oui, bah oui, mais c'est là où tu posais ton fanzine, même si c'était pas forcément un fanzine musical. Disquaire et vendeur de bandes dessinées, c'était quasiment à peu près la même chose.
Absolument. Et après, moi, j'arrive à Lyon, où les disquaires sont vachement bons aussi, mais pas non plus sympas. Mais là, ce qui moi m'est arrivé, c'est qu'à Lyon, je vais rencontrer des gens qui ont un magasin de disques qui était Attaque Sonore, et je vais rentrer dans Attaque Sonore. Et ensuite, on va créer ensemble le Gougnaf Mouvement, un autre disquaire à Lyon. Donc, ça va être 3 ans de ma vie. Et à partir de là, je change de... Mon regard, les disquaires cessent de m'impressionner. Et je rentre chez eux comme chez des gens. Je sais pourquoi ils sont pas souriants. C'est le protocole, c'est pas grave. On peut quand même leur parler, quoi. Et du coup, je me souviens dans n'importe quelle ville où j'arrive, de France ou d'ailleurs, à l'époque, c'est le premier truc que tu cherches avant tout, c'est le disquaire, quoi.
Et le disquaire à Tours, il y en avait pas beaucoup de disquaires à Tours, mais il y en avait un qui m'a tout appris. Qui était le premier à me mettre dans les mains un disque du Jefferson Airplane. After Baffin à Baxter's, avec une super pochette, avec un avion dessiné par un mec qui s'appelle Ron Cobb, je crois. Et je pense que lui, ça a été une base pour Vernon. C'est vraiment le disquaire qui pue la clope, qui a les doigts jaunis, qui a pas l'air de se changer tous les jours, de prendre une douche tous les jours, et qui a un blouson en jean un peu délavé qui va garder jusqu'à la fin de ses jours et qui va être enterré avec.
L'idée du disquaire, elle vient de l'idée que c'est quelque chose qui était une énorme industrie, qui nous... comme beaucoup de choses, on a été bien surpris quand on a été triste de la voir disparaître, parce que c'était une énorme industrie qui avait vraiment pas que des bons côtés. Mais surtout, ce qui était surprenant, c'est qu'elle a disparu en 2 ans. Napster est arrivé et c'était réglé en 2 ans. Ouais. Moi, ça m'a frappé parce qu'évidemment, je connaissais beaucoup de gens qui travaillaient dans l'industrie du disque à plusieurs niveaux, comme groupe, comme dans les labels, dans les... Il y a plein de gens qui ont été affectés très directement, et on a commencé à voir ce que c'était que des licenciements massifs entre gens qui se connaissent très bien, qui travaillent ensemble depuis tout. Qu'est-ce que c'est aussi convoquer des artistes pour les remercier, des artistes des fois avec qui tu as travaillé pendant 40 ans, à qui est-ce qu'on confie ce travail, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, c'était toute une série d'événements qui arrivaient. Et moi, ça m'intéressait le magasin de disques aussi, justement, parce que comme je suis resté plus de 3 ans à Lyon, j'ai pris conscience de ce que si je pense à tous les gens qui venaient régulièrement dans ce magasin, et à ce qu'ils étaient devenus, effectivement, c'est comme si tu prenais un endroit, tu coupes un endroit, tu réunis des gens qui ont une bonne raison d'être ensemble parce qu'ils écoutent la même musique et que c'est important. Et ensuite, quand ils vont continuer leur vie, en vérité, ils se ressemblent à aucun niveau parce qu'ils n'ont pas la même origine sociale, ils n'ont pas les mêmes codes, en vérité. On a eu quelque chose en commun réel, c'était pas une farce où on s'est pas rendu compte un jour qu'on s'était trompé les uns sur les autres. On a vraiment vécu quelque chose ensemble, et en même temps, 20 ans après, tu retrouves des gens qui sont passés par l'Europe, tu retrouves de tout, entre guillemets, quoi. Et ça m'intéressait beaucoup pour tresser Vernon.
It's a joke. Moi, c'est ce que j'aimais bien dans Vernon, c'est aussi cette espèce d'illusion qu'on a tous plus ou moins vécu, c'est que peut-être une illusion adolescente de se dire que le rock ne meurt pas. Dans Vernon, il y a un Bowie qui meurt qui traumatise une bonne partie des personnes alentour, qui traumatise presque autant que le 13 novembre. Et oui, le rock meurt, et Vernon se dématérialise lui-même comme la musique, et c'est quelque chose qui le rend finalement attrayant pour les autres. Et autour de lui, les autres, ses amis, ceux qui ont été ses amis ou ceux qui essayent de l'être, s'accrochent à une réalité matérielle. Tandis que lui, il accepte de tout perdre. Et autour de lui, on est fasciné inconsciemment par cette lumière qu'il a encore en lui, alors que le monde s'écroule.
Oui, et cet effritement du monde, en tout cas, et qui va de pair, en tout cas là, concernant la musique, avec une digitalisation. Enfin, ce mouvement, on voit que c'est un mouvement qui s'amplifie. Enfin, là, on est en plein dans l'époque Covid. On voit que ce mouvement... il devient global, en fait, il touche plein d'industries, en fait, en tout cas, il y a une révolution industrielle qui est en train de se passer. Je me demandais le regard que vous aviez là-dessus, et qu'est-ce que ça faisait de dessiner, en même temps, une bande dessinée qui est en train de raconter
ça. Oui, ben, c'est vrai que j'ai passé la moitié de la bande dessinée pendant la période de Covid, a dessiné un type qui est confiné, lui, à l'extérieur, d'une certaine manière. Et a presque à le jalouser. C'est-à-dire que il a tout perdu, il perd son boulot, mais il reste en contact avec les autres. Il reste en contact même avec quelque chose en lui, avec une espèce de foi. Et c'est ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a, en lui une espèce de foi qu'il n'a pas besoin d'entretenir. Il est là, on ne sait pas pourquoi on est amoureux de la musique, on ne sait pas pourquoi on est passionné de ça. C'est un mystère de construire sa vie autour de sa passion. Moi, j'ai construit ma vie autour de ma passion, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Toi, par exemple, toi aussi, tu as construit ta vie autour de ta passion, c'est l'écriture. Ou alors, c'est autre chose.
Non, mais avant ça, ça a vraiment été la musique, quoi. Ça a été vraiment pendant toutes les années de jeunesse, la musique. L'écriture vient quand la musique tombe, à peu près, quoi, dans mon cas, quoi. Mais c'est vrai que de petite fille à, de 13 à 23 ans, en gros, ou de 13 à 25 ans, la musique est vraiment tout ce qui... c'est le film narrateur, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse et j'ai tout trouvé dans la musique. Et c'est drôle, le rock au sens large, ça a vraiment occupé nos vies. Et le pire, c'est qu'après coup, quand je regarde, je me dis pas j'ai perdu 10 ans de ma vie à des conneries. J'ai l'impression que ça a été réellement les 10 meilleures années de ma vie parce qu'il y a il y a beaucoup de choses dans la musique et notamment le fait qu'on puisse l'écouter à plein. Qu'elle se joue en concert et qu'il se passe quelque chose quand même quand on assiste à ces concerts, qu'il se passe quelque chose quand on danse ensemble comme quand on danse chez soi, il se passe quelque chose et c'est ce qu'on sent que je le cherche dans Verdun, je le crois, ça modifie quelque chose dans le cerveau. Je pense à force d'écouter de la musique comme on l'a fait, écouter de la musique tout le temps, ça change quelque chose quand même dans le cerveau, j'en sais rien, mais en tout cas dans ta façon de percevoir. Et moi il me semble que ça a été récupéré par le capitalisme ou pas, c'est pas tellement l'essentiel du problème, c'est que ça produit quelque chose dans ta chimie et c'est quelque chose de vital, quoi.
C'est aussi, pour moi en tout cas, j'ai écouté la musique tout seul dans mon coin, mais c'était là où j'ai perçu qu'il y avait la nécessité d'un collectif. Sans le concert, sans mes parents qui m'emmènent voir des concerts, j'aurais jamais touché du doigt la volonté de faire partie des autres. Sinon, je serais resté à Tours. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais fait clerc de notaire. J'en sais rien. J'aurais été graphiste à Tours. Mais s'il y avait pas la musique, j'aurais pas croisé des gens aussi différents que Bowie, Freddie Mercury, mais Gender Studies, c'est Bowie qui a été le premier professeur. Et pour moi, la musique, c'est le point de départ de l'altérité, en fait, vraiment. Et c'est peut-être ce truc-là qui est assez inquiétant, c'est de se dire où sont les passeurs de cette altérité-là. S'il n'y a plus de disquaires, on peut écouter de la musique dématérialisée. Peut-être que quelque part, c'est une chance aussi pour la musique de se dire qu'elle est débarrassée de tout cet apparat fantasmé, les pochettes, les moulburnes ou autre chose. Mais tout d'un coup, il y a ce truc un peu charnel qui est en train de disparaître. C'est-à-dire ce côté, ce disque que tu ne tiens pas dans tes bras.
Et est-ce que vous avez la sensation que la perception et la fabrique de la rockstar, la rockstar comme Alex Bleach, hein, qui existe dans le livre, qui est donc voilà cette mythologie rock, est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que...
Je ne sais pas si c'est modifié, mais la mythologie de la rockstar, c'est quelque chose d'assez utile. Même la rockstar collaboratrice, collabo avec le système, on a besoin finalement d'avoir en face de nous des anti-modèles. Et c'est plutôt pas un mal de chercher la pureté, mais en sachant que c'est introuvable. Moi j'aime bien des phrases d'Alex Bleach qui dit j'écoute pas hip-hop pour me sentir pur. J'aime cette idée que la musique, c'est quelque chose d'assez suffisamment varié pour y trouver le pur, l'impur, le soi, l'autre, et quelque chose d'une micro-société à portée d'oreille.
Est-ce que tous les deux, vous n'êtes pas exactement de la même génération, mais proches quand même dans les références, est-ce que vous avez l'impression que Virginie t'a souvent dit que la musique, notamment le rap, le punk évidemment, mais le rap aussi, ça avait beaucoup influencé ta manière d'écrire, à tes débuts en tout cas, aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours le cas. Est-ce que toi, Luz aussi, c'est quelque chose qui a été important dans ta façon d'aborder le roman graphique?
Moi, la musique et le dessin, c'est vraiment c'est vraiment ma respiration, c'est-à-dire que d'un côté, j'inspire avec la musique et j'expire avec le dessin. Et quand à un moment donné, j'ai plus réussi à écouter de la musique après les attentats, il me manquait quelque chose. Et j'ai réussi à revenir à la musique aussi grâce à Vernon. Aussi grâce au fait de dessiner, de me replonger dans cette idée qu'il fallait que je dessine la musique. J'avais dessiné la musique pendant des années et des années à faire des concerts, des reportages sur les groupes que je voyais en festival ou ailleurs, et à essayer de dessiner cette énergie indicible, indescriptible, indessinable. Et finalement, Vernon m'a poussé à me replonger sur la question, et pour le coup, je me suis replongé dans ma discothèque pour retrouver Vernon. J'ai trouvé Vernon dans ma discothèque parce qu'il était là, parce qu'il était sur une pochette et au coin d'une pochette. Et ne serait-ce que de faire cette démarche-là, ça m'a un petit peu sauvé de cette blessure qui était que je n'avais plus du tout d'oreille musicale.
Et toi, Virginie, tu dirais aujourd'hui que la musique, est-ce que ça reste quelque chose d'important pour toi? Est-ce que ça reste quelque chose qui est encore influent dans ton écriture? Ou est-ce que, par exemple, la série est devenue quelque chose qui t'influence plus aujourd'hui?
Non, je crois que la musique, la série m'influence parce que je regarde tellement narrativement, ça finit par me... ça se voit dans Vernon, par m'impacter, mais la musique reste... Après, c'est difficile de dire en le faisant comment on a impacté, mais la musique en elle-même, par exemple, quand tu parlais des rockstars, quelqu'un comme Cardi B, ouais, c'est parce que c'est ce qui est intéressant dans le rock et qui est devenu intéressant dans le rap, c'est que c'est aussi l'imbécile, la brute et le truand que tu cherches dans la personne que tu as investi de pouvoir dans Cardi B. C'est pas seulement, je pense que c'est une grande interprète, mais c'est pas seulement ça qui est intéressant chez elle, c'est aussi tout ce qui se tient mal, et c'est ce qui te permet de te dire, avec tout ce qui se tient mal en moi, je peux quand même me projeter dans quelque chose de lumineux. C'est une opération assez particulière parce que tu le cherches notamment dans la musique, en fait, ça. Et quelqu'un qui va incarner quelque chose qui te donne une énergie, qui te donne, je vois, ouais, Cardi B, Megan Thee Stallion, elles ont pas mon âge, j'ai aucun rapport avec ces meufs-là, elles te donnent une énergie dans leur façon de gérer leur merde, en fait, quelque part aussi. Et pas que ça, mais c'est ça aussi qui est important, et c'est ce qui déconne chez elles aussi qui est vraiment important. Et du coup, la musique est importante dans mon écriture au sens où c'est reste dans la musique que je cherche une énergie. Et après, il y a aussi dans l'écriture elle-même, on va parler à un moment donné de PNL, dans ce que les plus jeunes que moi, leur façon d'aborder la langue, d'écrire, ce qu'ils peuvent se permettre et qui passe et qui produit quand même une réaction en moi. Ouais, je pense que ça continue à influencer ma façon d'écrire, en tout cas ma façon de me dire que dans l'écriture, tu peux te permettre beaucoup de ruptures, tu peux te permettre de violenter la langue d'une certaine façon, d'être vraiment un délinquant de la langue et quand même de produire un effet poétique. Ça veut dire de produire un effet, ça révèle quelque chose en toi, et d'une façon euphorisante, ou d'une façon qui te permet de regarder une émotion en toi, et tu vas la trouver belle, cette émotion, alors que peut-être elle te mettait mal à l'aise peu de temps auparavant. Donc, ouais, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'alchimie dans la musique qui continue de me soutenir beaucoup.
Tu écris, toi, en musique?
Ouais, j'écoute de la musique quand j'écris encore maintenant. J'écoute moins de musique dans ma vie qu'avant. Je marche beaucoup quand on peut marcher dans la rue, quand on est autorisé à marcher dans la rue, je marche dans la rue en écoutant de la musique, toujours, mais j'écris, ouais, j'écris en musique. Et par exemple, Vernon, c'est vraiment Leonard Cohen. De bout en bout, c'est avec Leonard Cohen, c'est divin pour écrire.
Toi, c'est rigolo parce que t'as énormément dessiné la musique, les concerts, on le disait, enfin d'ailleurs avec un talent fou, quoi, sur les mouvements des groupes. Et tu m'avais dit une fois dans une interview que tu étais toujours tenu un peu à l'écart quand même de la virilité rock, quoi.
Oui, parce que c'était parce que j'ai été plus éduqué à Bowie qu'à Led Zeppelin. Même si après, effectivement, je suis revenu sur le heavy rock, etc., avec des Mulburn. Mais j'ai toujours été comment dire, j'ai pris je pouvais pas prendre au premier degré ce qui se passait dans la vérité rock. Déjà, un type qui gratte une guitare, c'était déjà suffisamment de phallus pour moi. Il y avait pas besoin de plus. Et en même temps, moi j'ai fait mon éducation, sensuelle et sexuelle, même en regardant un concert de Queen en 86 et en passant ma soirée à regarder le couple qui était en train de baiser juste à mes pieds alors que tout le monde était en train de regarder ce formidable Freddie Mercury avec cette grande cape etc. alors que moi j'étais en train de regarder ce couple en train de baiser comme des malades juste à mes pieds pour moi c'est ça la musique, ça m'a apporté ce truc là aussi si je cherche bien ça tu es arrivé au féminisme avec la musique. C'est grâce à Le Tigre, il y a des concerts au Café de la Danse que j'ai dérivé très très tranquillement vers un féminisme absolu. C'est tout d'un coup quand je voyais trois nanas sur scène en train de hurler, je me suis dit que les hurlements de Kathleen Nana valaient très largement ceux de Robert Plant. Et là, à ce moment-là, tout a basculé dans ma tête. Et je crois que King Kong Theory est sorti pas très longtemps après, genre 2-3 ans après. Et donc là, il y a eu un champ qui s'est ouvert pour moi en me disant mais j'ai passé ma vie à écouter quand même beaucoup de couilles dans ma discothèque et peu de vulve, beaucoup de couilles. Et donc là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui un champ finalement à la fois musical et intellectuel qui s'ouvrait pour moi. Et peut-être heureusement qu'il y a eu ça. Sinon, je serais encore en train de me tirer le pompon sur les roues, quoi, peut-être.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.